Bonjour à toutes et à tous, Christina Silvero pour cette édition du journal de Nu Info. Au menu, l'ONU félicite le Premier ministre Abiy Ahmed, lauréat du prix Nobel de la paix. À Copenhague, le secrétaire général souligne le rôle déterminant des villes dans la lutte contre le changement climatique. Nous marquons la Journée internationale de la fille et revenons sur la santé mentale en République centrafricaine. Un dossier coup de projecteur sur la situation sécuritaire et humanitaire au Burkina Faso. Les félicitations de l'ONU se sont multipliées ce vendredi suite à la remise du prix Nobel de la paix au Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed Ali. L'UNESCO, le HCR et le secrétaire général ont tous salué son rôle dans le rapprochement historique entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Le chef de l'ONU, Antonio Guterres, a souligné que le Premier ministre est lauréat Nobel et l'une des principales raisons qu'il évoque des vents de l'espoir qui soufflent de plus en plus fort en Afrique. À Copenhague, le secrétaire général de l'ONU participe au sommet mondial des maires, membre du C40, une organisation qui rassemble 94 grandes villes du monde entier, engagées dans la lutte contre le changement climatique et l'amélioration de la qualité de l'air pour leurs citoyens. Dans la capitale danoise, Antonio Guterres a remercié les maires pour leur leadership en faveur de l'action pour le climat et leur a demandé de continuer à mettre la pression sur leurs gouvernements nationaux. Pascal Sim nous en dit plus.
La bataille du climat sera gagnée ou perdue dans les villes. C'est le message qu'a transmis Antonio Guterres aux élus des 94 grandes villes du C40 réunis cette semaine à Copenhague. En concentrant plus de la moitié de la population mondiale, les villes sont en première ligne dans cette bataille, a souligné le secrétaire général de l'ONU. Les villes ont une empreinte climatique énorme, elles consomment plus des deux tiers de l'énergie mondiale et représentent plus de 70% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. D'ici 2050, près de 7 personnes sur 10 vivront en zone urbaine et plus de 90% de cette croissance aura lieu dans les pays en développement. Sans une planification urbaine soucieuse du climat, les conséquences seront profondes, a prévenu le chef de l'ONU, soulignant que les choix qui seront faits en matière d'infrastructures urbaines au cours des prochaines décennies auront une influence considérable sur la réduction ou non de la courbe des émissions. À une époque où les entreprises, les villes et la société évoluent plus vite que les États, Antonio Guterres a rappelé aux maires qu'ils doivent continuer à maintenir la pression sur leurs gouvernements nationaux pour que ces derniers concrétisent l'objectif de neutralité carbone d'ici 2050.
This is all wrong. I shouldn't be up here.
En ce 11 octobre, nous célébrons la Journée internationale de la fille, placée cette année sous le thème « Les filles, une force libre et inarrêtable ». Le secrétaire général a appelé à défendre l'égalité des droits et donner aux filles les moyens d'exercer une influence dans nos familles, nos communautés et nos pays. Une vingtaine de rapporteurs spéciaux ont salué le rôle moteur que jouent actuellement les filles activistes à travers le monde. On écoute Alda Facio, membre du groupe de travail de la discrimination contre les femmes et les filles.
Nous voulons souligner que les jeunes filles sont maintenant à la tête de mouvements sociaux contre le changement climatique, pour la justice sociale, la justice environnementale, contre le fondamentalisme. Tout ça parce qu'elles sont vraiment une génération de jeunes filles qui sont très actives. Par exemple, Malala, qui a eu le Nobel à 17 ans, et Greta Thunberg, qui fait l'activisme contre le changement climatique. Et la plus jeune de tous, qui est une jeune fille indigène, qui s'appelle Aram Peltier, du Canada, qui lutte pour l'eau propre. Et il y a beaucoup d'autres dans tous les pays et dans tout le monde qui sont actives, même s'ils sont très défavorisés dans la société.
Sensibiliser et mobiliser l'opinion publique aux questions de santé mentale est l'objectif visé cette année à l'occasion de la Journée de la santé mentale. Selon le docteur Kate Kall du service psychiatrique de l'hôpital de Bangui, capitale de la République centrafricaine, les guérisseurs traditionnels sont encore souvent utilisés pour traiter des cas de dépression ou autres troubles mentaux, ce qui limite leur traitement. Il invite les populations à recourir à la médecine moderne.
La différence est énorme. En Afrique, lorsque quelqu'un souffre de maladie mentale, on attribue ça à la sorcellerie, à la magie, au mauvais sort, et de suite. Ce qui fait que le réflexe de nos parents, dès qu'il y a un patient qui souffre de troubles mentaux, on l'amène chez les tradis praticiens. Mais l'inconvénient, c'est que lorsqu'on amène ces personnes chez les tradis praticiens, qui n'ont aucun examen à faire, ils vont trouver des prétextes pour expliquer la maladie mentale. Ce qui fait que les gens vont perdre beaucoup de temps là-bas. Et le résultat est généralement minime. Nous avons les moyens d'investigation pour chercher les causes, voir rapidement identifier la cause de la maladie. Et nous avons maintenant aussi des moyens pour soigner les patients également. Et enfin, nous avons les psychologues qui sont avec nous, les travailleurs sociaux qui sont avec nous, et nous constituons une équipe ici. Tout ça là, ça contribue à l'amélioration de la santé de la personne qui a des problèmes de troubles mentaux.
La dégradation de la situation sécuritaire et humanitaire au Burkina Faso est alarmante. L'ONU a renforcé sa présence sur le terrain avec la création de bureaux régionaux pour atteindre les communautés les plus éloignées. Au micro de Jérôme Bernard, la coordonnatrice résidente des Nations Unies au Burkina Faso, Metsi Maketa, explique comment la communauté internationale se mobilise pour aider ce pays, grâce notamment au Fonds de consolidation de la paix.
La situation est assez alarmante. Le Burkina a subi une crise à la fois sécuritaire et humanitaire sans précédent. C'est pour la première fois dans l'histoire du Burkina Faso où on voit un déplacement massif de population. Par exemple, au mois de janvier, le pays avait quand même commencé à voir une augmentation à cause des attaques qui sont en train maintenant de s'intensifier. On avait 100 000 personnes déplacées. Aujourd'hui, 8 mois après, on est à près de 300 000 personnes déplacées. Donc c'est pour vous dire à quelle vitesse la situation se dégrade. Et même pire, avant, les attaques visaient plutôt les forces de sécurité. Aujourd'hui, les attaques visent aussi les civils. Nous, Nations Unies avec les partenaires, nous nous sommes mobilisés auprès des populations. Il y a un plan de réponse qui a été revu à la hausse au mois de février. On avait planifié pour accompagner le Burkina Faso avec un montant qui était à peu près 5 millions de dollars. Aujourd'hui, on a été contrainte d'augmenter les chiffres encore dû au fait que la population quitte tout derrière parce qu'ils sont tous à la recherche de la sérénité et aussi des refuges. Donc le plan de réponse aujourd'hui, c'est un plan qui fait appel à près de 200 millions de dollars. Ce financement n'est pas disponible. On est financé à 30%. Or, la situation va à une vitesse qui peut être sous contrôle et nous devons tout faire pour contenir et pour protéger toutes ces familles qui ont tout laissé derrière à la recherche du refuge et d'abri.
Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets d'actions sur le terrain pour justement essayer d'enrayer la dégradation de la situation humanitaire et sécuritaire?
Alors, les Nations Unies, avec les partenaires, vu le contexte, nous devons tout faire pour que les communautés puissent continuer à vivre dans un contexte où la coexistence soit une coexistence qui ne va pas créer encore des tensions dû au fait qu'il y a une compétition pour les ressources au niveau local. Toutes ces populations déplacées sont dans des zones qui ont été déjà vulnérables, zones qui ont subi une période de sécheresse. Ils ne sont pas sortis de cette période de sécheresse et voilà aujourd'hui la générosité a été sans précédent. Ils ont reçu, ils hébergent les familles avec eux, mais il n'y a pas ce qu'il leur faut en termes d'accès à l'eau, en termes de services de santé. Donc, nous devons tout faire pour qu'il y ait une accélération de fourniture de ces services sociaux de base.
Quel rôle joue le Fonds pour la consolidation de la paix?
Pour le Burkina Faso, il y a eu trois aspects catalytiques. Le premier, c'est que ça a été le premier fonds dont le Burkina a bénéficié pour pouvoir contenir la situation qui se dégrade. Le pays a un programme d'urgence pour répondre à la situation. Et les Nations Unies, à travers cet instrument, a été le tout premier à venir parce que le pays avait besoin de cet appui. Deuxième chose, c'est que c'est l'instrument qui nous a permis de vite mobiliser toutes les capacités, l'expertise des agences pour qu'on puisse accompagner le pays à aborder une situation où on commence à avoir rupture de confiance entre les populations et l'administration. Il y avait aussi presque rupture de confiance entre les populations et les forces de sécurité. Et ces fonds qui nous ont permis d'être sur le terrain, d'accompagner les autorités par une présence plus positive, une présence qui permet de dire qu'on est là.
Voilà, fin de ce journal de Nu Info à retrouver sur notre page internet et sur nos comptes Twitter, Facebook et SoundCloud. Merci de votre fidélité. On se retrouve lundi, même heure, même fréquence. Bonne fin de semaine.